Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia. Bonjour. L'opposant congolais Guy Brice Parfait-Kolela, principal rival de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle qui s'est tenue dimanche au Congo-Brazzaville, est décédé des suites du Covid-19 lors de son évacuation sanitaire vers la France, a indiqué lundi à l'AFP son directeur de campagne. Il est décédé dans l'avion médicalisé qui était venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi, a déclaré Christian Cyr Rodrigue Mayanda. On va continuer à compter les bulletins. Il était en tête dans un certain nombre de localités, a ajouté le directeur de campagne, qui a appelé les partisans de M. Kolela à un rassemblement lundi à 11h, 10h GMT. L'opposant avait été testé positif au Covid-19 vendredi après-midi et n'avait pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. À quelques heures du scrutin, il avait publié une vidéo dans laquelle il affirmait se battre contre la mort. Opposant historique, M. Kolela, 60 ans, est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant, M. Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, qui ne cachait pas sa volonté de se faire réélire dès le premier tour dimanche. Les résultats du scrutin ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Notre correspondant sur place, Arsène Séverin, reviendra sur l'élection elle-même. L'ex-président centrafricain François Bozizé a pris la tête de la rébellion qui a lancé il y a 4 mois une offensive pour renverser le président Faustin Archange Touadéra, réélu en janvier. Michel Joseph aura les détails dans quelques instants. Au Niger, la Cour constitutionnelle a confirmé dimanche dans un arrêt l'élection du candidat du pouvoir Mohamed Bazoum comme nouveau président du Niger avec plus de 55% des suffrages. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, nous en parlera. Niger toujours, des hommes armés ont tué au moins 22 civils dimanche dans l'ouest du pays, près des frontières du Mali et du Burkina Faso, selon l'agence Reuters. Les assaillants ont attaqué 3 villages de la région de Tillabéri et une source au sein des services de sécurité a attribué la responsabilité de cette attaque à des combattants de l'organisation État islamique. Lundi dernier, dans la même région, au moins 58 civils avaient été tués lors de l'attaque d'un convoi de retour d'un marché hebdomadaire à un village situé à proximité. Mort dimanche à l'hôpital d'une fillette malienne de 2 ans qui faisait partie de 52 migrants africains secourus mardi près de l'île de Grande Canarie à bord d'une embarcation, ont annoncé les autorités de l'archipel. Selon les médias locaux, l'enfant, qui était accompagné de sa mère et de sa sœur aînée, avait été victime d'un arrêt cardiaque dû à une sévère hypothermie lors de la traversée. Les Canaries sont un important point d'entrée pour les migrants tentant de rallier l'Europe. La Chine a offert 400 000 doses de vaccins Sinopharm et des consommables afin de lutter contre la propagation du coronavirus au Niger, a indiqué dimanche le ministère nigérien de la Santé. Le ministère compte lancer la campagne de vaccination contre le Covid-19 à partir du 27 mars à Niamey. On a signalé 4 918 cas, dont 185 décès au Niger. L'Afrique du Sud, plus de 1,5 million de cas et déjà plus de 52 000 morts, a vendu le 1 million de doses de vaccins AstraZeneca en sa possession qui seront distribuées à 14 pays africains, a annoncé dimanche son ministre de la Santé. Le pays africain officiellement le plus touché par la pandémie avait reporté mi-février sa campagne d'immunisation prévue initialement avec AstraZeneca après que l'efficacité de ce vaccin avait été mise en doute contre le variant local du virus. Les déboires du vaccin AstraZeneca, que l'OMS et le régulateur européen estiment toujours efficace et sûr, compliquent sérieusement la donne au moment où l'accélération de la 3e vague de la pandémie de Covid-19, notamment en Europe, rend plus nécessaire que jamais d'accélérer les vaccinations. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. La suite de nos informations. En République centrafricaine, l'ex-président François Bozizé a pris la tête de la rébellion qui a lancé il y a 4 mois une offensive pour renverser le président Faustin Archange Touadéra. Michel Joseph.
François Bozizé a répondu favorablement à l'appel des 6 groupes armés, membres de la CPC, la Coalition des Patriotes pour le Changement, lui demandant de prendre la tête de la coalition en qualité de coordinateur général, selon Serge Bozanga, le porte-parole de la coalition. Mi-décembre, 6 des plus puissants groupes armés qui contrôlaient les 2/3 de la Centrafrique en guerre civile depuis 8 ans se sont alliés au sein de la CPC, puis ont lâché une offensive contre le régime du président Touadéra. Apportant son soutien à la CPC, le jour de l'élection présidentielle, M. Bozizé avait appelé à boycotter le scrutin. Le 4 janvier, une enquête a été ouverte à son encontre, notamment pour rébellion. Malgré des attaques répétées jusqu'aux portes de la capitale, les rebelles n'ont pas réussi à empêcher la réélection de M. Touadéra à l'issue du premier tour de la présidentielle du 27 décembre. Depuis près de 2 mois, les rebelles ont perdu un certain nombre de villes, se heurtant notamment aux 12 000 casques bleus de la MINUSCA. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé le 12 mars une résolution prévoyant d'augmenter de 3 000 casques bleus les effectifs de la MINUSCA.
Au Niger, la Cour constitutionnelle a validé les résultats du second tour de la présidentielle du 21 février dernier. Elle a confirmé ce qu'a proclamé la CENI qui donne vainqueur le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Mohamed Bazoum, 55,66%.
Avec ces résultats, la Cour constitutionnelle a déclaré Mohamed Bazoum président du Niger pour les 5 années à venir à compter du 2 avril prochain. Il devient ainsi le 2e président de la 7e République après son mentor Issoufou Mahamadou. C'est la première fois que 2 présidents démocratiquement élus se succèdent au pouvoir. La victoire de Mohamed Bazoum, son challenger Mahamane Ousmane l'a aussi réclamé. Les recours qu'il a introduits auprès de la Cour constitutionnelle pour ce faire n'ont pas prospéré. Une manifestation de ses partisans pour revendiquer cette victoire a été interdite le week-end dernier par les autorités de la ville de Niamey. En attendant sa réaction après cette validation des résultats par la Cour constitutionnelle, le camp du vainqueur prépare l'investiture prévue pour le 2 avril prochain.
L'audience est levée.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et maintenant les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
À quelques jours de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022 et après une semaine d'incertitude, le monde du football africain respire ou presque.
Oui, les clubs professionnels français qui refusaient de libérer leurs internationaux africains en s'appuyant sur une circulaire de la FIFA qui les y autorise se sont finalement retratés car le gouvernement français a annoncé qu'il acceptait d'exempter les joueurs de la quarantaine à leur retour sous certaines conditions et notamment le respect strict d'un protocole sanitaire et médical. Problème. Les sélections concernées devront aussi visiblement s'engager à rapatrier leurs internationaux en France via un vol privé. Une dérogation qui intervient à moins de 48 heures des rassemblements, ce que fustige bon nombre de sélectionneurs africains. Il faut dire que le Sénégal, dans un communiqué, a réitéré sa demande de mise à disposition de ces joueurs qui évoluent en France.
Élisée, le Bénin pourrait faire pareil.
Exactement, Idrissa. En difficulté, Michel Dussuyer, le sélectionneur des écureuils, avait même annulé la conférence de presse au cours de laquelle il devrait annoncer la liste des joueurs qu'il a retenus pour les 2 matchs cruciaux contre le Nigeria et la Sierra Leone. Le technicien français compte sur ses expatriés pour atteindre l'objectif, celui d'être au Cameroun en 2022. La fédération a d'ailleurs pris toutes les dispositions pour avoir les joueurs sélectionnés. Par contre, selon les infos, Olivier Verdon, David Kiki qui évolue en Bulgarie et Rudy Gested qui joue en Australie ne seront pas libérés puisque leurs clubs n'ont pas cédé aux doléances des autorités béninoises.
On reste au Bénin pour dire qu'en prélude au championnat du monde de pétanque que le pays organise, la fédération a organisé hier un tournoi de détection dénommé tour à tour.
Et c'est à Boïcon que la compétition a eu lieu avec la participation de plus de 100 équipes. À l'issue d'une finale entre deux équipes de Cotonou, c'est Prestige qui a sorti vainqueur après avoir battu 11-8 son homologue de Soudia Timé. Le directeur technique de la Fédération béninoise de pétanque se réjouit de la qualité du championnat. On écoute Guy Trounou.
Notre rôle, c'est quoi? C'est de parcourir tous les départements avec les meilleurs joueurs des départements et essayer de détecter ceux qui essayent d'émerger pour que nous puissions faire notre sélection. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a été vraiment une compétition de très haut niveau et les meilleurs sont encore là. Moi, je suis très content d'avoir du résultat.
Boxe à présent qualificatif aux Jeux Olympiques, la RDC a qualifié 4 pugilistes.
Une première pour le pays. Plus de précisions avec notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simbu-Nyamba-Nyamba.
Ils sont 3 boxeurs à obtenir leur qualification aux prochains Jeux Olympiques grâce à leur position au classement mondial. Une première pour la RDC qui franchit un cap important, estime Ilunga Luyoyo, président de la Fédération Congolaise des Boxe.
C'est pas dit qu'on nous a donné comme cadeau, c'est par rapport au classement mondial. Ce qui fait que nous sommes très fiers depuis que Congo est Congo.
Totale satisfaction pour Thérèse Yumba qui boxe chez les 60 kilos.
Très contente. Moi je les avais bien, Laurent. Parce qu'on avait dit là-bas que vous serez retenu pour ceux qui ont eu le 3e place. Vous serez
retenu
pour les Jeux Olympiques.
Détentrice de la ceinture ABU chez les Plumes, obtenir son ticket pour les Jeux Olympiques est une bonne chose pour tout athlète, estime Marcela Sakobi, 57 kilos.
Tout athlète de haut niveau, il faut arriver à ce moment ici. Ça montre que nous avons fait nos parcours très bien d'avoir la qualification pour les Jeux Olympiques.
À ces 2 qualifications d'âme, l'on note également celle des Fiston Baya, 60 kilos messieurs, et bien entendu, David Chama, qui s'était qualifié un peu plus tôt, objectif atteint pour la Fédération congolaise des boxe.
Parmi les objectifs, c'était d'amener la Fédération des boxe aux Jeux Olympiques. On a atteint l'objectif, on est qualifié avec 4 boxeurs.
De Kinshasa, Valdo Simbu-Nyamba, VOA Afrique.
Salut les amis, c'est Yakuba Ouedraogo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéro de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leurs éclairages. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05, temps universel sur VOA Afrique, avec vous, Claire Morin-Gibourg. Le partage des charges financières dans les couples. Selon les traditions africaines, l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme. Aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent. Comment se fait le partage des dépenses dans les ménages? Est-ce que les manières de faire ont changé dans les jeunes couples? Est-ce que l'argent crée des problèmes dans les couples? À votre avis, c'est à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Pour participer, vous pouvez laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05, temps universel.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. République du Congo, décès de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela, le principal adversaire du président Denis Sassou Nguesso au premier tour de la présidentielle. C'est ce qu'a dit selon l'AFP son directeur de campagne. Il avait été évacué vers Paris hier, après avoir été testé positif au Covid-19 vendredi. Concernant cette élection, une attente de plusieurs jours a commencé après la fermeture des bureaux de vote hier soir, après le premier tour de la présidentielle. Le vote s'est déroulé dans le calme malgré le peu d'engouement constaté auprès des électeurs. La date de la publication des résultats n'est pas encore connue dans un contexte où l'Internet a été coupé, nous dit Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville. C'était hier soir, avant l'annonce du décès de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela. Nous écoutons Arsène Séverin.
Les Brazzavillois sont allés voter dans l'espoir de faire changer les choses. À Bakongo et Makele, quel est le fief de Guy Brice Parfait Kolela? Les électeurs n'ont pas hésité à l'affirmer.
Même si Mathias Ndongan, même si Parfait Kolela, mais pour le changement, c'est bon.
J'ai voté le candidat de mon choix. Oui, je suis satisfaite pour le changement du pays.
Vraiment, je suis venu voter pour le changement.
À Talangaï, un quartier favorable au pouvoir, les jeunes ont également appelé au changement à travers leur vote, même si c'est dans la continuité, disent-ils.
Parce que les personnes qui donnent les voix, ce sont nous autres. Parce que nous, on a besoin de la continuité dans le changement. On veut que le président puisse continuer, mais il faut qu'il nous apporte un peu de changement. On ne peut pas avoir un changement total, mais au moins un changement partiel. Petit à petit, on pourrait arriver dans un changement total.
Globalement, le vote s'est déroulé dans le calme, malgré le peu d'engouement. Quelques suspicions des cas de fraude ont été relevées par la population, qui a même tenté de détruire les urnes en Ngangoni et au Pékam Filou.
Les gens, ils ont voté double carte, qui a les cartes qui sont là, 2000-2000 chez les gens, pour voter. Mais on dit que la vote soit libre, transparente. Ça, c'est qu'elle est transparente, nous voulons faire. Est-ce que nous voulons clair encore le problème sur le Congo?
Si Rodrigue Mayanda, le secrétaire général de l'UDH Yuki, parti de Kolela.
À Talangaï, dans le siège du MDP, se déroulent des votes fictifs à coût de 10 000. Kamfilou, bureau de vote de Zénia, on a découvert un bureau fictif que j'ai personnellement fait détruire par la population. Je le reconnais. Maouta, à Mbanzandunga, c'est la même chose. À 7 heures du matin, notre délégué arrive, l'urne est déjà pleine. Là-bas aussi, il a fait brûler l'urne. On a fait brûler les bulletins.
Le candidat Mathias Nzon a quant à lui déploré l'absence des délégués des candidats de l'opposition dans les bureaux de vote.
Il n'y a que le représentant d'un seul candidat. Et si d'ici la clôture, les représentants des autres candidats ne sont pas là, ce bureau de vote ne sera pas considéré par nous. Ce sera considéré comme nul. On a envoyé les délégués partout, on les chasse.
Le président Denis Sassou Nguesso a salué un esprit de démocratie qui s'est exprimé depuis la campagne électorale. Cette élection s'est tenue alors que l'opposant Guy Brice Parfait Kolela, testé positif à la COVID-19, a été évacué dimanche en France. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Ajoutons que depuis ce reportage reçu hier soir d'Arsène Séverin, le directeur de campagne de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela a annoncé son décès après son évacuation hier vers Paris et après qu'il a été testé positif au coronavirus vendredi.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Gabon, le gouvernement s'apprête à faire vacciner la population contre le COVID-19. Le pays qui a reçu ses premières doses de vaccins chinois devrait néanmoins vaincre les doutes et les appréhensions de l'opinion sur cette campagne. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Sur le tarmac de l'aéroport international Léon Bas de Libreville, un vol spécial atterrit ce jour-là, puis débarque des cargaisons du vaccin Sinopharm devant les officiels gabonais et une délégation de l'ambassade de Chine à Libreville conduite par son ambassadeur, Wu Shangchun.
Le vaccin Sinopharm qu'on a reçu aujourd'hui est un produit très efficace et sûr, qui sont utilisés aujourd'hui dans plus de 60 pays du monde.
Selon les autorités, les sites pour abriter la campagne de vaccination sont presque tous prêts, comme ici au centre hospitalier universitaire de Libreville. Docteur Marie-Thérèse Vanet est directrice générale du CHU.
Au niveau du centre hospitalier universitaire de Libreville, nous avons deux sites. Il y a un site qui est déjà opérationnel et il y a un autre site qui est en fin de travaux.
Les 100 000 doses de vaccins vont servir à lancer la première phase d'un plan vaccinal national. On écoute quelques réactions sur les préparatifs de cette campagne de vaccination.
Je vais être vacciné, en tout cas. Moi, de mon côté, je vais me vacciner.
On attend d'abord le résultat de ceux des corps habillés et la santé. Voir comment ça se passe. C'est une très bonne chose, je le crois, c'est une très bonne chose. Il fallait bien se protéger.
Si tout le monde se fait vacciner, je me ferai vacciner.
Pour moi, le coronavirus ne touche que des gens qui ont des systèmes immunitaires faibles.
Mais si c'est un vaccin qui a déjà fait ses preuves avec chiffres à l'appui ailleurs, par exemple dans un pays africain comme le nôtre, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas partant.
Dans la première phase de la campagne de vaccination dont le chronogramme reste à définir, le plan national vise 50 000 candidats en deux injections. La première ministre Rose Francine Osuka-Raponda encourage les populations à se faire vacciner.
Nous exhortons et invitons les populations à se faire vacciner.
se faire vacciner. Pourquoi? Il s'agit de la protection de la santé, il s'agit de la protection de la vie.
Depuis le début de la pandémie, le Gabon a enregistré près de 20 000 cas de contamination et plus d'une centaine de décès. Mi-février, le pays a rallongé la période du couvre-feu, désormais à partir de 18 heures locales au lieu de 22 heures. Et interdit les entrées et sorties de la capitale vers les provinces, afin d'enrayer une hausse inquiétante des cas de COVID-19 dans le pays. Les vols internationaux ont été réduits à 2 par semaine et par compagnie. Libreville, Ismaël Odionze pour VOA Afrique.
Au Cameroun, les présidents sortants du Sénat et de l'Assemblée nationale ont été reconduits dans leurs fonctions en fin de semaine dernière. À 86 ans, Marcel Niat Nifendi rempile pour la 8e année, tandis que Kavaï Yegi Djuri, le président de l'Assemblée nationale âgé de 81 ans, a été maintenu au perchoir pour la 29e année consécutive. Pour certains Camerounais, la transition générationnelle promise par le président Paul Biya lors de son récent discours à la jeunesse le 10 février dernier peine à être une réalité. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julta.
Sur une vidéo devenue virale, l'on aperçoit le président du Sénat se déplacer péniblement devant les sénateurs qui viennent de le réélire. Ces images ont été abondamment commentées sur la toile par les Camerounais.
Le pays est dirigé par des vieillards devenus enfants qui sont incapables aujourd'hui de donner la moindre direction du vent.
Aloïs Parfumvoum est l'initiateur d'une campagne sur les réseaux sociaux baptisée « Non au travail forcé des vieillards ». Il est vice-président régional pour le Centre du Social-Démocratique Front, un parti de l'opposition.
Leur positionnement actuel ne dépend pas forcément d'eux, mais des forces tapis autour d'eux qui les obligent à être là comme des marionnettes pendant que celles-ci se servent agréablement dans le panier du Cameroun.
Très affaibli par la maladie, le président réélu du Sénat a même été contraint de lire son discours assis avec une voix à peine audible. À l'Assemblée nationale, Kava Yegé Dibril a été maintenu au poste qu'il occupe depuis 1992.
Ma profonde gratitude, je l'adresse humblement et avec déférence à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, le chef de l'État et président national de mon parti.
Les deux chambres du Parlement sont contrôlées par le RDPC, le parti au pouvoir. Ses députés et sénateurs reçoivent toujours les consignes de la hiérarchie du parti sur le choix des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Une pratique que déplore le militant du SDF, Aloïs Parfumvou.
C'est des connivences acceptées par tous pour les seuls intérêts qui sont la recherche des postes.
Le statu quo au perchoir des deux parlements a résigné même certains leaders de l'opposition. Cabral Libi a 40 ans. Il est député et président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale.
Prenons acte de la reconduction et puis nous souhaitons que le travail du bureau se fera beaucoup plus dynamique.
De nombreux Camerounais ont espéré un début de transition générationnelle, tel qu'évoqué par le président Paul Biya lors du discours à la jeunesse le 10 février dernier. Steve Tameton, spécialiste des questions de gouvernance et de démocratie.
Dans la préfectorale, par exemple, il y a une certaine volonté d'implémenter cette transition générationnelle, mais à des postes de responsabilité clairs et de pouvoir net, le président de la République continue encore à travailler avec ceux qui sont pratiquement de sa génération. C'est à se demander si le chef de l'État n'est pas en train de se préparer finalement pour une transition générationnelle.
Une écrasante majorité de la population camerounaise est constituée de jeunes, mais même le poste de ministre de la Jeunesse a toujours été jusqu'ici confié à une personnalité de plus de 45 ans. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Sénégal, le centième anniversaire d'Amadou Martar Mbow a été fêté à travers une exposition et un colloque international. Cet hommage à l'ancien directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987 a vu la participation des acteurs de plusieurs pans de la société africaine et mondiale. Ce fut surtout l'occasion de revenir sur la vie plurielle d'un homme singulier, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Jeunesse africaine, emparez-vous de l'œuvre du patriarche, car elle vous appartient. Emparez-vous, jeunesse du Sénégal et d'Afrique, des leçons de courage, d'humilité, de générosité, en somme d'humanisme de cet homme de 100 ans, debout, énergique, et tourner vers l'avenir en dépit du vieillage. Cher Amadou Martin Bou, joyeux anniversaire et de Benet.
C'est par ces mots que le président sénégalais Macky Sall a ouvert le bal d'hommage et de reconnaissance au centenaire d'Amadou Martin Bou. La cérémonie grandiose a eu lieu au musée des civilisations noires de Dakar. Dakar, où Amadou Martin Bou est né le 20 mars 1921. Comme Macky Sall, plusieurs personnalités parmi lesquelles le chef de l'État burkinabé, l'ancien président malien Alpha Omar Konaré, le représentant du roi Mohamed VI du Maroc, le ministre et ancien journaliste Abdoulatif Koulibaly, l'acteur culturel panafricaniste Didier Awadi et l'enseignant syndicaliste Abdoulaye Ndoye ont respectivement évoqué l'empreinte que l'ancien directeur général de l'UNESCO a laissé à l'Afrique et au monde. Amadou Martin Bou, c'est aussi un engagement politique permanent, comme l'indique l'historien et ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, Kalidou Diallo.
Lorsque le général de Gaulle a proposé la communauté franco-africaine à l'AOF et à l'AEF, Amadou Martin Bou et ses amis ont décidé de voter non. Donc, ils ont quitté l'Union progressiste sénégalaise pour créer Pra-Sénégal. Et Amadou Martin Bou a démissionné du gouvernement parce qu'il était ministre de l'Éducation nationale et de devient opposant de 1958 à 1966. Durant sa période d'opposant, ensuite il s'est battu au sein de l'IGTAN, qui avait pour secrétaire général Sékou Touré, et qui a bien sûr provoqué les grèves de 59 et qui finalement a été dissous.
Malgré son engagement politique, Amadou Martin Bou est resté foncièrement attaché à l'enseignement. L'historien Kalidou Diallo revient sur cet autre engagement du centenaire.
Bien sûr, il est resté opposant, mais surtout resté enseignant, parce que après le ministère de l'Éducation, il est affecté comme professeur. Donc, il est retourné dans la craie, au lycée Federer, ensuite affecté à l'école normale supérieure de Dakar comme professeur d'histoire. Et là, avec les Hassan Sack et d'autres Français comme les Paul Pélissier, ils ont créé l'association des professeurs d'histoire et géographie. Et lui, il était le président de cette association pendant très longtemps. Et ils ont réorganisé, surtout à partir de 1964, à Abidjan, créé de nouveaux programmes d'histoire et de géographie.
100 ans et toujours debout pour l'Afrique, Amadou Martin Bou instruit la jeunesse africaine de toujours rester alerte sur les défis actuels et futurs.
Soyez fidèles également à votre continent. L'Afrique a été un grand continent. Au 15e siècle, quand les Européens sont arrivés pour la première fois, et soyez aussi des citoyens du monde. Le monde est un. L'évolution a fait que nous sommes devenus solidaires les uns des autres, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais cette solidarité implique que la justice soit appliquée à tous et que les inégalités qui caractérisent le monde actuel disparaissent.
Ce combat pour l'égalité, Amadou Martin Bou dit le porter depuis toujours. Pour lui, il faut un monde nouveau où tout le monde s'épanouirait à travers un développement durable fondé sur la science et la technologie qui fournissent à l'heure actuelle le moyen de surmonter toutes les insuffisances, toutes les difficultés et toutes les inégalités. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.